À cette époque-là, si lointaine déjà, l'homme vivait donc dans des conditions qui lui permettaient de développer ses facultés artistiques d'une façon extrêmement remarquable. Cela n'est pas l'œuvre d'un jour, naturellement. Il y a quelques 40 000 ans, les premiers dessinateurs ont commencé à tracer sur les murs couverts d'argile avec les doigts des images. Ils ont également, avec les doigts souillés d'argile sur des parois rocheuses, promené leurs doigts de façon à faire des espèces d'entrelacs parmi lesquels on voit naître des figures d'animaux et parfois d'hommes. Ils ont aussi imprimé sur les parois des mains cernées de couleur rouge ou noire, qui sont non pas des figures humaines, mais les premières manifestations d'une préoccupation d'associer l'homme aux œuvres d'art qui les avoisinaient.
Nous venons d'entendre Henri Breuil, prêtre catholique et préhistorien, aussi surnommé le pape de la préhistoire. Henri Breuil a participé à l'étude de nombreux sites ornés et sera reconnu comme le spécialiste international de l'art pariétal préhistorique. Ce document sonore date de 1952, date à laquelle paraît son ouvrage majeur, 400 siècles d'art pariétal, qui dresse pour la première fois un panorama de l'art pariétal paléolithique franco-cantabrique. Altamira est découverte en 1879. Mais il faudra attendre la découverte de Fonds de Gaume en 1902 pour que les préhistoriens reconnaissent l'art pariétal préhistorique. Cette reconnaissance bouleverse l'image que nous avions de nos ancêtres, leur conférant une grande capacité d'abstraction et de symbolisation. Coïncidant avec la découverte des peuples premiers, de nombreuses interprétations sont inspirées des récits ethnographiques. Dès le début du XXe siècle, l'art paléolithique est perçu par certains comme un art magique, symbole de l'esprit religieux qui anime l'homme dès ses origines. Les figurations étaient souvent interprétées comme des représentations de sorciers revêtus de peaux de bête lors de cérémonies liées à la chasse pour favoriser l'abondance du gibier. À Lascaux, par exemple, certains signes situés sur le corps des animaux, en particulier entre l'encolure et les flancs, peuvent être interprétés comme armes ou blessures. Annette Laming-Emperor envisageait certains signes abstraits comme des pièges et voyait en Lascaux un sanctuaire lié à la magie de la chasse. Les nombreuses études des restes osseux ont démontré que les hommes préhistoriques ne peignent pas les animaux qu'ils consomment. Cependant, une étude menée en 2010 sur les animaux dits fléchés de Lascaux permet d'envisager une magie de la chasse qui ne serait pas liée à une quête alimentaire, mais à une chasse rituelle ou qualifiante, comme chez les Maasai, qui pratiquent une chasse au lion rituel. Ce sont les animaux dangereux, félins et bisons, qui sont peints fléchés. Ces représentations peuvent également avoir pour rôle d'annihiler la dangerosité de ces animaux, comme cela se pratiquait en Égypte ancienne, où des êtres hostiles sont représentés percés de flèches ou de couteaux. Comme le note Marc Azema, l'art de Lascaux est extrêmement vivant et animé. Les animaux semblent vivre et bouger sur les parois. Faut-il donc empêcher cette animation en les surchargeant d'armes au cas où ils prendraient vie? C'est une des thèses envisagées par Julien Duy et Loïc Le Quellec. La théorie de l'art chamanique est envisagée dès les années 50 par Kirchner, qui rapproche sorciers paléolithiques et chamans sibériens. Mircea Eliade présentera également, dans l'édition revue et corrigée de son ouvrage sur le chamanisme en 1964, l'art préhistorique comme un art chamanique. Cette thèse est reprise en 2007 par Jean-Claude et Lewis Williams, mais elle est fortement critiquée pour deux raisons principales. Tout d'abord, ils accordent bien trop d'importance aux états de conscience altérés, réduisant implicitement le chamanisme à la transe et la transe au chamanisme. D'autre part, il n'hésite pas à qualifier l'art des San, peuple nomade d'Afrique du Sud, d'art chamanique. Pourtant, le concept de chamanisme ne semble pas adapté au contexte africain. Luc de Heuche, vers 1960, oppose fermement culte de possession et chamanisme vrai, puisque, de l'un à l'autre, le rapport entre humain et esprit s'inverse. Le chaman est celui qui chevauche les esprits et qui revient pour raconter ce qu'il a vu. Sa possession, si elle a lieu, est bénéfique. Au contraire, dans le culte de possession, ce sont les esprits qui chevauchent l'homme, et ce dernier ne se souvient de rien. La possession est souvent considérée comme un mal qu'il faut exorciser, et elle sert parfois bien plus le pouvoir que la guérison. La divination ou la possession ne sont pas forcément suivies de transe. Il y a ainsi tout un continuum entre ces deux extrêmes, chamanisme et culte de possession, que les auteurs des chamans de la préhistoire ont trop facilement éludé pour unifier artificiellement des rituels complexes et diversifiés. Georges Bataille, riche des connaissances de l'abbé Breuil, publie en 1955 « Lascaux ou la naissance de l'art ». Il se propose de réorienter notre vision de l'art. Inscrit dans un monde judéo-chrétien dont il pousse à l'extrême la violence sacrée, Georges Bataille valorise une esthétique de l'informe, d'inspiration nietzschéenne et dionysiaque. L'art est le miracle qui a permis le passage de la bête humaine à l'être délié que nous sommes. Si la technique est au cœur de l'hominisation, l'homme étant l'animal qui n'accepte pas simplement le donné naturel, qui le nie, il change ainsi le monde extérieur naturel, il en tire des outils et des objets fabriqués qui composent un nouveau monde, le monde humain. C'est l'art, jeu divin ou sacré, s'opposant au monde du travail, qui permet à Homo faber de devenir Homo sapiens. Mais pour Bataille, le sacré est ambigu, à la fois divin et démoniaque, source de toutes les altérités et hétérogénéités, de beauté, de laideur et d'effroi. Les figures anthropozoomorphes l'interpellent, et c'est à travers elles qu'il perçoit les frémissements de l'homme sortant de l'animal, homme masqué du prestige des bêtes. Comme s'il avait honte de son visage, et que, voulant se désigner, il dut en même temps se donner le masque d'un autre. Cette séparation de l'homme et de l'animal est vécue comme un processus négatif, au cours duquel l'homme s'éloigne du divin, du monde animal dans lequel le travail n'existe pas. Bataille ne manque pas de remarquer les Vénus et autres présentations ityphaliques. L'art préhistorique exhibe ce que la civilisation judéo-chrétienne cache, le sexe et la mort, parce que les hommes de ces temps lointains inclinaient à retrouver le monde sauvage qu'ils figuraient avec ferveur, dans l'angoisse, inclinant à l'oubli pour un temps de ce qui naissait en eux de clair, de prosaïquement efficace et d'ordonné. Pour Georges Bataille, l'homme de Lascaux créa de rien ce monde de l'art où commence la communication des esprits. Art intimement lié à l'angoisse de l'homme face au chaos qu'engendre la mort et l'érotisme, acte violent à la fois destructeur et créateur. Bataille tente de s'extraire de l'influence humaniste et judéo-chrétienne de sa société en renouant avec les forces dionysiaques du chaos. Cependant, sa vision de l'animalité reste enfermée dans le carcan de l'ontologie occidentale qui, au mieux, rejette l'animal dans l'immanence et l'immédiateté du monde. L'animal est dans le monde comme l'eau à l'intérieur de l'eau. Conception de l'animalité qu'il transpose aux hommes du paléolithique. Est indéniable. Les hommes du paléolithique ont figuré majoritairement des animaux. L'ébauche humaine, souvent sous forme anthropozoomorphe, est présente dans des endroits plus isolés et parfois difficiles d'accès. Le visage, quant à lui, apparaît plus tardivement. Cet imposant bestiaire préhistorique nous interpelle encore aujourd'hui. Que ces peintures préhistoriques aient été le fruit de transes effrénées, de jeux dionysiaques, de contemplations extatiques ou de méditations philosophiques, elles témoignent avant tout de l'appartenance de l'homme à la grande chaîne du vivant et du monde animal. Cette filiation si difficile à rendre compte de manière mécaniste et analytique est ressentie encore de nos jours par des peintres, des philosophes, des poètes, des concierges, des balayeurs. Ce sentiment d'appartenance de l'homme au monde animal s'exprime par un dialogue avec la nature, car l'homme est lui-même nature, créature sur terre et créature dans l'univers, créature sur un astre parmi les astres. Hey!